Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Écrire des choses grotesques, c'est ma façon de rire de la mort. Je veux qu'elle vous reste dans la gorge. Écrivain peu consensuel, rescapé du ghetto ayant survécu aux nazis et à la garde de fer d'Antonescu, Edgar Ilsenrath était en 1994 l'invité de Mémoire du siècle. L'auteur du Nazi et le barbier y revenait sur les différentes époques d'une existence commencée en 1926 en Allemagne. Après 25 ans passés aux États-Unis, devenu écrivain, ce pays natal qu'enfant juif il avait dû fuir avec sa famille, Edgar Ilsenrath est pourtant revenu s'y installer définitivement pour vivre dans cette langue allemande qui est sa véritable patrie. J'ai écrit en allemand, qui pour moi n'était pas la langue des nazis, mais celle de mon enfance, dit-il. Nuit, Fuck America, le retour au pays de Josel Wassermann. Interrogé par Antoine Speer, Edgar Ilsenrath nous éclaire sur l'origine d'une œuvre qui scandalisa beaucoup avant d'être tardivement reconnue. Il évoque notamment « Conte de la pensée dernière », hommage aux victimes du génocide arménien, qui lui valut le prix Alfred Döblin et une place particulière dans le cœur des Arméniens.
Mémoire du siècle, Edgar Ilsenrath, par Antoine Speer et Isabelle Mézil. Edgar Ilsenrath est un écrivain juif de langue allemande. Mais c'est en France qu'il commença l'écriture de Nuit, l'histoire de ce ghetto juif roumain qu'il connut de 1941 à 1944. Ce livre eut un grand succès aux États-Unis, en même temps que Le Nazi et le Barbier, traduit en français aux éditions Fayard. Violente satire de la cruauté, ce roman où abondent le cocasse et l'imprévu dissimule sous un humour et une verve tout à fait étonnants la passion de comprendre les ressorts de la haine antisémite. Mais Edgar Ilsenrath ne s'est pas attaché qu'à parler du génocide juif. Dans le conte de la pensée dernière, traduit récemment aux éditions Albin Michel, il se coule dans l'odyssée tragique et rocambolesque d'un paysan arménien émigré aux États-Unis et accusé à son retour en 1914 de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Saga familiale foisonnante, de destins heureux, cruels ou cocasses, épopée tentaculaire du peuple arménien condamné à mort par le pouvoir turc lors du grand massacre de 1915, ce livre a quelque chose d'un conte oriental, tour à tour truculent, lyrique, grand-guignolesque, subversif, cinglant, en racontant les mille et une nuits de l'Arménie. Depuis 1975, Edgar Ilsenrath vit à nouveau à Berlin. Et dans son dernier livre, Le retour de Josel Wassermann, il raconte l'histoire d'une petite ville juive de Galicie entre 1774 et 1942. À Berlin, Edgar Ilsenrath milite contre la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme. Avec 50 autres écrivains allemands, il vient de fonder une association dont l'objectif est de lire des textes littéraires dans les foyers où les demandeurs d'asile trouvent un accueil précaire. Ses lectures rencontrent aujourd'hui en Allemagne un succès croissant. Edgar Ilsenrath, vous êtes né à Leipzig en 1926. Est-ce que vous vous souvenez de vos premières années à Leipzig ?
Non, parce que j'avais 3 ans quand mes parents sont allés à une autre ville. Parlant de Leipzig, c'était la ville de Halle. J'avais 3 ans dans ce temps-là. Et à Halle, je suis allé à l'école. Alors je me souviens bien de Halle.
Quelle était l'atmosphère en Allemagne, dans cette république de Weimar finissante?
Enfin, vous savez, quand Hitler a pris le pouvoir, j'avais
7 ans.
Alors, et Halle, c'était une ville de nazis, vraiment très nazi et très provinciale. Alors, j'étais le seul enfant juif dans une école nazie. Alors, c'était terrible. Alors, je n'ai pas de souvenirs heureux de cet temps. Personne ne savaient que j'étais juif, mais parce que dans ce temps-là, j'avais l'air comme un Allemand. J'avais des cheveux blonds, des yeux bleus, je parlais l'allemand comme les autres Allemands. Mais un jour, quelqu'un a dit, voilà, cet enfant est juif. Alors, après ça, toutes les enfants
sont liés contre vous ?
Sont liés contre moi. Pas tous, mais il y avait deux ou trois très actifs contre moi, et les autres, je les regarde. Alors, mais l'atmosphère était très angoissante. Voilà. Mais j'avais une famille qui était très gentille. Mon père était un marchand de meubles.
Et votre mère ?
Ma mère était une Hausfrau.
Travaillait à la maison ?
À la maison, oui.
Et vous aviez combien de frères et sœurs ?
J'ai un frère qui est plus jeune que moi.
Lorsque vous étiez en classe et qu'il y avait deux ou trois de vos camarades qui voulaient vous rosser, vous aviez des camarades qui vous défendaient ?
Non. Non, j'avais toute seule, mais vous savez, je me suis toujours défendu, toujours, et j'avais des batailles avec les garçons chaque jour. Mais c'était pas agréable parce que le seul événement qui était heureux, c'était quand je suis allé chez la communauté juive. Là-bas, j'avais des camarades, tous juifs. Mais autrement, les Allemands étaient vraiment très antisémitiques.
Et Gary Zenraté, est-ce que vos professeurs vous défendaient ou bien...
Non, il y avait quelques professeurs qui étaient neutres. Il y avait deux qui étaient très antisémites. Et ils faisaient des blagues. Pour donner un exemple aux élèves, il a peint un cochon sur le tableau. Et il a dit, voilà, les Juifs ne mangent pas des cochons, mais les Juifs eux-mêmes sont des cochons. C'est comme ça. Il faisait des blagues. Mais c'est tout.
Est-ce que vous en parliez de cela avec vos parents ?
Non.
Pourquoi ?
Non, parce que j'avais honte. Et puis après, mais vous savez, il y avait un temps quand j'étais un peu plus grand que les professeurs m'ont battu avec une règle. Et ça, je dis à mes parents. Alors, mon père qui était officier dans l'armée autrichienne pendant la Première Guerre mondiale, il s'est mis ses décorations comme officier autrichien et allemand. Et il est allé à l'école pour parler avec les professeurs. Il leur dit, voilà, moi je suis juge, je suis officier. Et je me suis battu pour l'allemand. Alors, il faut ne pas... Pourquoi vous traitez comme ça mon garçon ? Et après ça, mon père, il m'a envoyé de l'école. Il m'a envoyé dans une école privée. Alors là-bas, c'était bon. Les parents ont payé, voilà, c'était bon.
Vous avez dit que vous aviez des liens avec la communauté juive.
Oui.
Quel genre de lien ? Votre père était pratiquant ?
Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Et votre mère aussi ?
Aussi, bien sûr, bien sûr. Vous savez, moi, mes grands-parents étaient des gens très religieux. Les parents de ma mère et les parents de mon père. Alors, nous sommes allés chaque semaine. C'est les parents de mon père qui ont vécu à Leipzig. C'était des gens très religieux. On a fait là-bas le Shabbat. Là-bas, vous savez, ils avaient des amis aussi dans leur âge, des gens religieux. Alors, comme ça, j'avais l'occasion de rencontrer des gens, des juifs religieux.
Voilà. C'est en 38 que vous avez quitté l'Allemagne. Vous vous souvenez pourquoi vous avez quitté ? Comment votre père a pris cette décision ? Toute la famille est partie ?
Oui. Non. Non, c'est pas toute la famille. Mon père a eu un commerce. Alors, les nazis l'ont boycotté. Et ça a commencé en 33, mais après 4 ou 5 ans, il a fait faillite. Alors, il est resté à l'Allemagne pour vendre le commerce et pour faire les taxes et des autres choses. Et il a envoyé sa femme, c'était c'était ma mère, et moi et mon petit frère, en Roumanie, parce que les parents de ma mère habitaient en Roumanie. Et dans ce temps-là, la Roumanie était un pays libre, c'était une monarchie. Il y avait beaucoup d'antisémitisme en Roumanie aussi, mais pas officiellement. C'était comme ça. L'Europe centrale, toute l'Europe centrale était antisémite, mais aussi la Roumanie, mais c'était pas officiel. Et les Juifs ont vécu là-bas plus ou moins tranquille. Mon grand-père, il était marchand de bestiaux, faisait beaucoup d'argent, c'était un homme riche. Et nous sommes allés là-bas.
Donc, vous alliez à l'école dans une école qui était laïque ou dans une école qui était juive quand vous étiez en Roumanie ?
Non, en Roumanie, je ne suis pas allé à l'école parce qu'il n'y avait que des écoles roumaines. Parce que la Bougouville était après 18, c'était roumain. Ça appartient à la Roumanie. Alors, je ne suis pas allé à l'école, mais j'ai pris des leçons privées.
Avec qui ?
Avec. Il y a quelques professeurs dans cette petite ville qui donnaient des leçons en allemand et en roumain. Alors j'ai pris une femme, une autrichienne, qui me donnait des leçons en mathématiques et en histoire et tous. Et vous savez, parce que j'étais le seul élève, alors je pouvais faire le progrès très vite. Alors, quand j'avais 15 ans, je me suis préparé pour le bachot. Et dans cette petite ville, j'étais très heureux parce que j'avais beaucoup d'amis. Et aussi, je suis entré dans le mouvement sioniste. Et quand j'avais 14 ans et demi, je suis devenu le chef des jeunes sionistes là-bas, dans cette ville. C'était un moment heureux de ma vie.
Edgar Eisenrath, qu'est-ce qu'on faisait dans un groupe sioniste en Roumanie ?
Qu'est-ce qu'on fait ? Mon travail, c'était de donner aux autres membres des leçons sur la Palestine et l'histoire juive et l'histoire sioniste et le projet sioniste, des choses comme ça.
Vous faisiez ça en quelle langue ?
En allemand et en yiddish.
Personne ne comprenait l'allemand, si ?
Ah ouais.
Vos camarades comprenaient l'allemand ?
Ah bien sûr, parce que vous savez, là-bas, tout le monde parle yiddish et allemand. Même après, c'était devenu la Roumanie. Vous savez, même les rues n'ont jamais changé de leur nom. Les Roumains ont dit... les Roumains, ils ont changé le nom des rues, mais personne ne faisait attention. C'était toujours le nom allemand.
Edgar Eisenrath, vous-même, vous aviez de bons amis à cette époque, dans cette ville roumaine ?
Oui, de très bons amis, oui.
Que vous avez gardés ?
Oui, quelques-unes. J'écris des lettres de temps en temps, mais on me téléphone. Mais la plupart qui étaient morts pendant le Shoah, il y avait quelques-unes qui sont revenues, et avec eux, j'ai gardé un contact. Voilà.
Les Roumains qui étaient tout autour, ou bien alors les anciens citoyens de l'Empire austro-hongrois, ils avaient des rapports avec vous, ou bien ils étaient loin parce qu'ils habitaient la banlieue ?
Vous savez, en Bourgogne, il y avait beaucoup de nationalités. Il y avait des Juifs, il y avait des Tziganes, il y avait des Ukrainiens, il y avait des Hongrois, il y avait des Allemands aussi là-bas, et des Roumains.
Edgar Eisenrath, je voudrais savoir quels étaient vos rapports en tant que jeune Juif avec tous ces jeunes garçons et filles des autres nationalités. Vous les voyez, vous parliez avec les jeunes Tziganes, avec les jeunes Roumains, les jeunes Allemands ?
Non, parce que vous savez, les différentes nationalités là-bas, ils restaient entre eux. Et les Juifs aussi, et les Allemands aussi, et les Roumains aussi, et les Ukrainiens aussi. On ne se mélangeait pas.
Edgar Eisenrath, vous aviez l'impression que, puisque vous étiez le chef de ce petit mouvement sioniste, qu'il y avait quelquefois des conflits durs avec les autres jeunes, des autres nationalités ?
Non.
Votre père, vous en aviez des nouvelles ?
Non, mon père est resté en Allemagne, mais trop longtemps, parce qu'en 1939, quand la guerre a éclaté, mon père mon père s'est enfui et il a passé la frontière française, allemand-français. Et il est venu à Paris. Il avait quelques amis à Paris. Et il est resté en France. Mais c'était très dur pour lui parce que il n'avait pas de l'argent. Il n'avait pas de droit de travail. Mais après quelques mois, il a obtenu le permis de travail ici en France. Il s'est installé à Paris. Et après, quand les Allemands sont venus à Paris, il est allé en France du Sud. Et là-bas, il a changé son nom. Il avait un ami à Villeneuve, sur l'eau, et qui était maire de Villeneuve. Et cette mère lui donnait des faux papiers avec un nom chrétien. Il s'appelait Jean Clébé. Parce qu'il avait un accent allemand, alors né à Metz, de l'Alsace. Alors comme ça, il pouvait passer. Chrétien d'origine lorraine. Lorraine, voilà. Et nous, nous n'avons rien entendu de mon père. Nous ne savons pas qu'il est mort, qu'il vit. Mais après la guerre, la première chose que j'ai fait, que j'ai trouvé son adresse avec l'aide de Croix-Rousse. Et il était à Lyon dans ce temps-là, parce qu'il n'est pas resté à Villeneuve. Il est allé à Lyon, parce que c'est une ville plus grande, alors il pouvait se cacher mieux là-bas.
Et vous l'avez retrouvé après la guerre ?
Oui, après la guerre, je l'ai trouvé.
Alors en 41, vous avez été obligé de fuir ce petit village de Roumanie,
oui.
Ou bien vous avez été emmené, déporté ?
En 41, la première chose que les Roumains ont dit, ils ont évacué cette petite ville parce que nous étions très proches de la frontière. Et quelques vieux sont restés parce qu'ils ne pouvaient pas marcher. Après notre évacuation, les soldats romains, les gendarmes romains sont entrés à la ville et ils ont fusillé tous les vieux dans la ville. Les autres, c'est nous. Nous étions évacués pour 2 mois. Et après ça, on est retourné dans le village. Et après, en octobre 1941, les Romains ont déporté tous les juifs de la Bucovine et de la Bessarabie. On nous a dit que avant de les fusiller, la population chrétienne, la plupart de la population chrétienne, ils ont bombardé les vieux, ils ont ri, ils ont fait des blagues, et ils ont bombardé ces vieux avec des tomates et des œufs. C'est comme ça.
Alors vous aviez été ramené après ces 2 mois?
Après ces 2 mois, nous voulons retourner dans le village, mais on ne pouvait pas parce qu'on nous a dit d'aller dans une petite ville dans le voisinage. Et puis après, nous sommes restés là-bas. C'était la ville de Radautz, c'est le nom de la ville. Et après, nous sommes restés là-bas quelques semaines. En octobre 1941, il y avait un ordre du gouvernement romain fasciste que tous les juifs de la Bucovine et la Bessarabie devaient être déportés.
Alors, Gardienrat, comment ça s'est passé ces 2 mois pendant lesquels vous avez été évacué, puis ramené près de votre village? Vous étiez sous la garde déjà de représentants de la garde de fer roumaine?
Non, on nous a évacués parce que notre ville était la frontière. Alors, on nous a évacués vers le centre de la Roumanie.
Sous la garde de policiers?
Sous la garde de policiers, et on nous a dit que vous pouvez rester dans la ville de Krajov. C'est une ville de Craiova. Vous pouvez rester ici, mais vous n'avez pas le droit de sortir. Il y avait une grande communauté juive, et ils nous ont aidés. Alors on pouvait dormir chez les juifs de la communauté juive. Ils nous ont donné à manger. Et après 2 mois, on nous a dit qu'il faut retourner dans le village. Alors on est retourné, mais on ne pouvait pas entrer le village. On nous a mis dans une ville voisine.
Ces voyages se faisaient à pied ?
Non, non, avec un wagon des bestiaux. Ouais.
Vous étiez combien par wagon ?
À peu près 50.
C'était dur ?
Non, c'était pas vraiment dur. Pour nous, nous étions des enfants, c'était une aventure. Mais bien sûr, c'était dur. Pour les vieux, c'était très fatigant. Mais autrement, c'était seulement quelques jours, ce voyage, avec un wagon bestiaux. Après, on est arrivé à Craiova, cette ville. On est resté là-bas pour 2 mois. Et puis après, on est retourné pour aller dans notre village. Mais d'accord. On ne pouvait pas, vous savez.
D'accord. Alors, à partir du moment où vous avez été déporté, ça a signifié quoi ? Vous êtes de nouveau parti en train, dans des wagons à bestiaux ?
Oui, vous savez, c'était comme ça. 3 jours avant d'être déporté, les fascistes ont mis des affiches sur les murs. Et les fascistes disent que toutes les juifs de la ville doivent être à la gare au 14 octobre pour être réimplantés.
Edgar Eisenrath, alors, lorsque vous avez été déporté dans ces wagons, à partir de cette gare roumaine, vous alliez vers où ? Vous saviez où vous alliez ?
Non, on a entendu que dans l'Est, il y a milliers de Juifs qui sont fusillés par les Allemands. Il y avait d'autres qui ont dit non, c'est pas vrai parce que nous allons pas vers les Allemands, on reste avec les Roumains. Mais on ne savait vraiment pas ce qui a passé. Alors, il y avait beaucoup de gens qui ont eu peur, mais il y avait d'autres qui ont dit, je m'en fous. Quoi. C'est Dieu qui nous garde. Alors, on est allé pour 3 jours de la Bukovine, en passant la Bessarabie jusqu'à la frontière russe. Nous sommes arrivés là-bas à la frontière russe. Et là-bas, on nous a embarqués et on nous a fait traverser la rivière Niestre avec des bateaux. Alors à l'autre côté de la rivière, il y avait une grande ville ukrainienne qui s'appelle Mogilev.
Et c'était en Union soviétique ?
Oui, mais maintenant, c'était occupé par les Allemands. En octobre
1941,
c'était occupé par les Allemands. C'était russe avant, mais maintenant, c'était allemand et roumain, parce que les Allemands ont donné aux Roumains un pas de l'Ukraine pour l'occupation. Alors, l'autre côté de la rivière, c'était cette grande ville. Cette ville était totalement détruite. Par les bombes, parce que quelques semaines avant, il y avait la guerre là-bas. Alors, nous sommes arrivés dans cette ville détruite. Il n'y avait pas de maison pour nous, pour vivre. Alors, la plus grande des gens, ils ont dormi dans les rues. Et quelques-unes ont trouvé des ruines. Voilà. Et dans cette ville, vivaient des Ukrainiens. Mais après une semaine, les Roumains ont partagé la ville en 2 parts. C'est vrai. Une part juive, l'autre part pour les Ukrainiens. Et la part juive, c'était, on a fait un ghetto. On a fermé cette part avec des fils de fer. Et on nous a dit, ceux qui quittent le ghetto vont être fusillés. Alors, on nous a forcé de rester dans ce ghetto. Et dans le ghetto, les Roumains sont venus chaque nuit dans le ghetto pour arrêter des Juifs pour la déportation vers l'Est. Et nous ne savons pas pourquoi ils ont fait ça. On a compris que ces gens devaient être livrés aux Allemands. Et les autres Juifs qui sont restés au ghetto, on n'a rien fait avec eux. On les a laissés là-bas. Et ils sont morts de faim. De faim et de fièvre typhoïde. J'ai eu la chance d'avoir quelques gens entrent dans nos groupes qui faisaient le marché noir. Alors, ils ont pris des vêtements, des bijoux, et ils ont quitté le ghetto dans la nuit. C'était très dangereux, mais ils ont fait ça. Et ils ont changé ses vêtements ou ses bijoux pour pain ou nourriture chez les paysans ou ukrainiens. Et ils l'ont ramené dans le ghetto. Et ils ont changé ça pour autre chose. Ils ont fait du marché noir. Et c'est pour ça que nous sommes pas morts de faim.
Vous avez survécu comme ça pendant combien de temps?
J'avais survécu comme ça. On était dans le ghetto depuis octobre 1941 jusqu'à mars 1944. En mars 1944, les Russes sont venus et ils nous ont libérés.
Racontez-moi cette libération russe.
Vous savez, les Allemands sont partis et les Roumains aussi. La ville était vide. Il n'y avait aucun soldat, aucun militaire pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, les partisans russes et juifs, il y avait des partisans juifs et russes, ils ont pris la ville. Ils ont occupé la ville.
Il restait combien de juifs dans le ghetto?
Peut-être 10 000.
Sur combien au départ?
Au départ, il y avait 140 000. Et beaucoup de ces juifs ont été déportés
vers l'Est.
Vers l'Est
et beaucoup sont morts de faim.
Beaucoup sont morts de faim.
Donc il restait 10 000 sur 140 000.
Je crois à peu près 10 000.
Votre mère était encore vivante?
Oui, elle était vivante, et mon frère aussi. Mais les Russes, vous savez, ils étaient très. Bien sûr, ils étaient nos libérateurs. Mais après quelques semaines, ils ont arrêté des milliers de juifs et ils ont envoyé ces juifs au Sibérie parce qu'ils avaient besoin de travail en Sibérie. Et moi aussi, j'étais arrêté par les Russes pour être envoyé en Sibérie, mais je me suis échappé. Et j'ai traversé la frontière russe-roumaine, parce que les Russes sont entrés en Roumanie et ils ont fait une deuxième frontière entre la Bessarabie et la Boucovine. Et je me suis échappé dans la Boucovine et je suis rentré dans mon village. J'ai trouvé la maison de mon grand-père. La plupart des gens étaient morts, mais il y avait quelques juifs qui sont retournés et j'ai vécu avec eux quelques mois, mais en septembre 1944, je suis marché, aussi marché, jusqu'à la capitale, jusqu'à Bucarest.
Gary Dunrad, mais vous aviez été séparé de votre mère et de votre frère alors?
Oui.
Parce qu'eux n'avaient pas été arrêtés par les Russes?
Non, non. Ils sont restés au ghetto quelques semaines et après ils ont marché à pied jusqu'à cette village où nous avons habité avant.
Donc vous les avez retrouvés là?
Oui, j'étais avant parce que je me suis échappé avant et puis j'attendais là-bas dans cette village jusqu'à ils arrivaient. Ma mère est restée dans cette village avec les Russes. Et à Bucarest, vous savez, parce que j'étais un chef des sionistes jeunes avant la guerre, on me connaissait à Bucarest parmi les sionistes. Alors, les sionistes m'ont donné des papiers faux pour la Palestine. Alors, on a ramassé un groupe de juifs, de survivants, et mais sur un train, et nous avons passé la frontière Bulgarie. Et en Bulgarie, les Russes, la Bulgarie était aussi conquise par les Russes. Les Russes nous ont arrêtés parce qu'ils pensaient que nous sommes des espions. Et après 2 mois, les Russes nous ont libérés et nous sommes allés en Palestine avec ce train de réfugiés.
C'est-à-dire
vers la Turquie, vers la Syrie, le Libanon, jusqu'à Palestine.
C'était en train, Turquie, Syrie.
Oui, oui, en train.
C'est-à-dire vous avez traversé toute l'Asie occidentale en train.
Oui, oui. Et je suis arrivé en Palestine en janvier 45.
Mais votre mère et votre petit frère étaient restés dans votre village natal.
Ils ont resté là-bas. Et en 46, ils ont appris que mon père vit et qu'il est en France. Alors ils ont parti par la France. Il n'y avait pas de train et pas de voiture, quelque chose comme ça. Alors ils ont marché jusqu'en France, de la Roumanie.
Et ils ont trouvé votre père ?
Ils ont trouvé mon père.
Et les trois sont venus vous rejoindre en Palestine ?
Non, ils ont trouvé mon père à Lyon. Et puis, moi j'étais en Palestine, mais quand j'ai appris que ma mère, mon frère et mon père, ils se sont rencontrés, alors je suis allé en France, à Lyon, en 47. Et après, j'ai vécu en France jusqu'à 51 avec...
Attendez, alors avant de parler de la France. Donc vous allez retrouver donc en 47 votre père et votre petit frère.
Oui.
Et vous avez été entre-temps donc un an en Palestine.
En Palestine, oui.
Comment ça s'est passé cette année en Palestine ? Vous avez été accueilli comment d'abord ? Arrivant par ce train ?
En Palestine, vous savez, j'étais jeune. Alors nous, on m'a mis dans un kibbutz, dans un groupe jeune. Nous étions obligés de l'apprendre l'hébreu le matin et dans l'après-midi, on nous a fait travailler dans le kibbutz, dans les chambres.
Et les Anglais, vous avez laissé entrer d'abord en Palestine ?
Oui, les Anglais, non, mais nous avons eu des papiers qui faux, mais les Anglais n'ont dit rien.
En fait, ils ont toléré votre entrée en Palestine ?
Ils ont toléré notre entrée, oui.
Et dans le kibbutz, vous étiez où exactement ?
J'étais dans un kibbutz qui s'appelait Tel Yitzhak. C'est à côté de Tel Aviv. Pas loin de Tel Aviv. C'est quelques kilomètres de Tel Aviv. Et puis après, j'ai été dans d'autres kibbutz. Mais vous savez, quand j'étais jeune, j'aimais le cinéma. Et pendant la guerre, je n'étais jamais dans un cinéma parce que c'était pas possible. Dans le kibbutz aussi, il n'y avait pas de cinéma. Alors je me suis décidé d'aller dans la ville d'Haïfa. Je suis allé à Haïfa et là-bas, j'ai trouvé un travail comme plongeur dans un restaurant.
Et vous alliez au cinéma ?
Et je suis allé au cinéma chaque jour, à chaque nuit. J'ai commencé à écrire quand j'avais 14 ans, le premier roman.
Et donc c'était en 1940.
Oui.
À ce moment-là, vous étiez, vous étiez en Roumanie.
En Roumanie. Et j'ai amené ce roman dans le ghetto. Je l'ai gardé tout le temps. Et je l'ai ramené après la guerre dans ce petit village. Et là-bas, j'ai donné ce manuscrit à ma mère. Et je lui ai dit de le garder.
Ce manuscrit, c'était Nuit ?
Non, non, c'était pas Nuit, c'était un autre manuscrit.
Mais qui n'a jamais été publié ?
Non. Ma mère l'a gardé, mais quand ma mère est allée en France, à pied, quand elle a traversé la frontière tchèque, elle a été attaquée par des bandits. Elle a perdu tous ses vêtements et ses valises avec le manuscrit. Je n'ai jamais revu ce manuscrit.
Donc votre premier manuscrit a complètement disparu.
Ah, c'est disparu.
Ça racontait quelle histoire ?
Ça racontait une histoire d'un nègre blanche. Je voulais montrer les problèmes de race. C'était pas un grand livre, mais c'était le commencement d'un écrivain.
Celui que tout le monde considère comme votre premier livre, c'est-à-dire Nuit.
Oui.
Vous avez commencé à l'écrire quand vous étiez en Israël ?
Non, j'ai commencé ce livre dans un bistrot français, à Lyon.
Donc après la Palestine ?
Après la Palestine, oui.
En fait, vous avez quitté la Palestine seulement pour retrouver votre famille ?
Oui.
Mais en fait, vous étiez plutôt bien dans cette première Palestine, même comme plongeur à Haïfa.
Non, c'était très dur parce que, vous savez, j'étais tout seul et je n'avais pas une profession, je ne pouvais pas gagner de l'argent et je voulais aller à l'école, c'était pas possible. Et je parlais pas bien la langue hébreu, c'était aussi c'était pas facile. Alors, le plus grand souci que j'avais, le problème que j'avais, c'était parce que je voulais devenir écrivain. La seule langue que je parlais, c'était l'allemand. Alors j'ai écrit une lettre à Max Brod, l'homme qui a découvert Kafka. Et je lui ai expliqué ce problème. Alors on a échangé des lettres. Il m'a donné des conseils. Il m'a dit, vous pouvez écrire en allemand même en Palestine, mais il faut lire des livres allemands, des grands écrivains, par exemple de Jacobsen ou de Gottfried Keller. Comme ça. Mais vous savez, j'ai lu aussi pratiquer la langue. Je ne pouvais pas en Palestine parce que personne ne parlait l'allemand. Alors, je me suis pensé, peut-être je vais retourner en allemand. Mais je n'ai jamais fait ça. Alors, je suis allé en France, d'abord en France pour trouver mes parents. Et après, je me suis dit, peut-être je peux écrire en allemand, même hors de l'Allemagne.
Votre contact avec Max Brod, c'était établi de quelle façon?
J'ai trouvé son adresse. Je lui ai écrit une lettre, c'est tout. Mais il était très gentil parce que j'étais jeune, j'avais 18 ans, alors il m'a répondu.
Et il vous conseillait de quitter la Palestine pour l'Allemagne?
Non. Il m'a écrit que je peux rester en Israël parce que c'est l'État juif, c'est très nécessaire. Je peux écrire en allemand même en Israël. Et il m'a dit que si vous lisez des grands écrivains allemands dans la langue allemande, vous n'oublierez pas cette langue.
Edgar Eisenrath, alors votre vocation littéraire au contact de Max Brod vous a conduit à écrire quand même votre premier livre publié, qui était La Nuit alors.
Oui, alors Max Brod m'a dit que si vous avez fini quelques pages que vous trouvez bon, envoyez-les-moi.
Et alors c'était La Nuit?
Non, c'était rien parce que j'avais rien écrit. Mais j'ai commencé La Nuit plus tard, 2 ans plus tard.
Donc en Amérique?
Non.
En France?
J'ai commencé, vous savez, je suis allé danser une nuit. Et après, je suis sorti toute seule parce que je ne trouvais pas une fille, une femme.
C'était en France?
C'était en France. Je suis allé dans un bistrot et j'ai demandé le garçon de me donner un crayon et un feuille de papier et j'ai commencé à écrire. C'était le premier chapitre de nuit.
Donc c'est après avoir dansé que vous avez écrit ce premier chapitre d'un livre donc qui raconte l'histoire du ghetto de 41 à 44.
Ah, mais ça n'avait rien. Mais parce que je voulais toujours écrire cette histoire, mais je n'ai jamais osé de commencer. Alors, cette nuit, je me suis dit, maintenant, je commence ou je ne le fais jamais.
Vous aviez l'impression que vous n'aviez pas trouvé d'être vivant pour vous écouter et qu'il fallait vous confier à la feuille de papier?
Ah, vous savez, j'avais des dépressions. Je n'avais pas de perspective. Alors je me suis dit, quand je commence à écrire, je vais retrouver mon identité et mes perspectives. Et je vais perdre ces dépressions, peut-être. C'était vrai, parce que quand j'ai fini le premier chapitre, j'avais plus de dépression, j'étais heureux.
Vous avez continué à écrire alors que vous étiez encore en France?
J'ai continué, non, parce qu'un mois plus tard, je suis allé en Amérique.
Pourquoi vous avez quitté la France pour l'Amérique?
C'est parce que la famille, parce qu'on n'avait pas une chance de faire quelque chose en France, vraiment sérieusement. Je ne pouvais pas aller à l'école non plus. Alors, on est allé en Amérique parce que la famille voulait s'installer là-bas. Mais moi, j'étais jamais heureux en Amérique, parce que j'étais aussi, vous savez, un outsider là-bas. J'ai découvert qu'il me faut vivre dans un pays où je peux parler la langue dans laquelle j'écrivais.
Edgar Eisenrath, au fond, on peut se dire que peut-être il fallait aller réhabiter en Allemagne, tout simplement. Pourquoi est-ce que vous avez attendu 75 pour aller en Allemagne?
Non, parce que j'étais juif, et je, vous savez, c'est une contradiction. Je voulais vivre dans un pays où je peux parler la langue, c'est seulement pour la langue, mais je voulais pas vivre parmi les Allemands, parce que les Allemands, c'était les nazis avant.
Ça veut dire que de 45 à 75, vous êtes resté aux États-Unis?
Je suis resté, oui.
Qu'est-ce que vous faisiez comme métier?
Rien, j'ai travaillé, j'avais des jobs, de petits boulots. Ouais.
Et en fait, l'essentiel, c'était quand même l'écriture.
L'écriture, c'est tout. Ouais.
Lorsque La Nuit est parue, ça a eu beaucoup de succès?
Non. Vous savez, j'avais écrit La Nuit avec la main. J'ai cherché quelqu'un qui pouvait le taper à la machine. Mais en Amérique, il n'y avait que des Américains qui ne pouvaient pas taper en allemand. Alors, j'ai téléphoné le plus grand journal allemand qui existait en Amérique. C'était Herald Tribune.
Herald Tribune en allemand.
Oui. Et j'ai expliqué mon problème. Mais la femme à l'autre bout du fil, elle n'a pas compris ce que je disais. Et elle m'a aidé avec une autre personne. C'était par hasard le chef du journal. Alors elle m'a dit, oui, mais qu'est-ce que vous avez besoin d'une secrétaire? Bon, mais qu'est-ce que c'est que ça que vous faites? Quel genre de manuscrit? Alors, je lui ai expliqué, il m'a dit, mais venez ici, je voudrais voir le manuscrit. Alors je suis allé là-bas, je lui ai montré le manuscrit, il a lu. Il m'a dit, ah, oh, mais c'est le plus grand histoire du Goethe que j'ai jamais lu. Il faut tout de suite envoyer un grand éditeur allemand qu'il connaît. C'était le Kindler Verlag, qui a fait l'Exodus, écrit par Léon Uris. Bon, on a fait ça, et le Kindler Verlag, cet éditeur allemand, il a pris le manuscrit tout de suite. Mais après que tous les gens dans l'édition ont lu le manuscrit, il avait une opposition contre le manuscrit. Parce que la femme de l'éditeur, c'était une philosémite. Ça veut dire le contraire de l'antisémitisme. Alors elle a dit non, on ne peut pas publier un livre comme ça parce qu'il y a des juifs dans le livre qui sont méchants et qui faisaient des marches noires et qui font ça et ça. On ne peut pas publier quelque chose comme ça en allemand. Alors l'éditeur, il a publié le livre, mais seulement avec une petite édition de 1000 exemplaires. C'est tout. Les journaux n'ont pas écrit des critiques sur ce livre. Et le livre est disparu en Allemagne. Après ça, un grand éditeur américain a pris le livre, c'est Doubleday. Ils l'ont fait traduire. Et ils ont publié le livre en 1966 en Amérique. Cet livre a eu beaucoup de critiques. Des grands critiques, mais autrement, c'était pas un grand succès non plus en Amérique. Mais plus tard, une édition de poche a acheté ce livre et ils l'ont vendu. Ils ont acheté deux livres, La Nuit et Le Nazi et le Barbier. Et ils ont vendu 1 million d'exemplaires.
Edgar Eisenrath, justement, Le Nazi et le Barbier, c'est le premier livre de vous que les Français ont connu. C'est un livre qui avait été publié par les éditions Fayard et qui racontait l'histoire, au fond, de la double naissance à la fois d'un nazi et en même temps d'un jeune juif qui naissait à 2 minutes 22 secondes de différence en 1907, donc en fait 20 ans avant que vous ne naissiez vous-même. Mais l'objectif pour vous, c'était d'essayer de montrer que entre Itzik Finkelstein, ce petit juif qui se référait toujours à Max Schulz, et ce qui allait être le fils d'un barbier juif, et le fils d'un barbier juif qui lui-même était un futur SS, un futur homme cruel, il y avait quelque chose comme une espèce de symbiose, comme une espèce d'interpénétration. Et tout votre livre, Le Nazi et le Barbier, a pour objectif, au fond, de nous laisser croire qu'il pourrait y avoir une interpénétration profonde entre la victime et le bourreau. Pourquoi, au fond, cette espèce d'intrication romanesque, finalement assez drôle, mais en même temps très grave?
Oui, c'est pour ça, parce que je crois que l'homme est influencé par son environnement. Alors, si un juif est né comme fils de nazi, aussi, il peut être nazi. Ce que je voulais faire, c'est montrer l'Allemand nazi, c'est un juif, par deux perspectives. La perspective du nazi et la perspective du juif, mais dans une personne. Alors, le caractère principal dans ce livre, c'est un homme qui est nazi et juif en même temps. Et qui peut voir les juifs et les nazis avec des yeux différents.
Edgar Eisenrath, comment est-ce que les juifs ont accueilli ça? Est-ce que la communauté juive en Amérique, mais aussi en Israël, pour ceux qui l'ont lu, a toléré qu'on puisse ainsi identifier un nazi et un juif? Au début du livre, il y a quand même deux personnages. Bien sûr, on se demande tout le temps si les deux personnages sont maintenus ou pas maintenus, et on a l'impression qu'il y a une fusion entre les deux personnages. Donc une fusion entre le bourreau et la victime, oui. Comme si on ne pouvait pas les séparer.
Oui.
Est-ce que ça a été tolérable pour la communauté juive?
Vous savez, les juifs n'aimaient pas mon livre nu.
Nuit.
Spécialement parce que c'était écrit avec l'humour noir. Mais les nazis et les barbiers, ils n'ont dit rien. J'avais quelques bonnes critiques, même dans les journaux juifs. Il y avait quelques-unes qui n'étaient pas si bonnes. Mais spécialement, c'était lui qui n'aimait pas au commencement. Mais maintenant, même parmi les juifs, lui est devenu... Dans les communautés juives et aussi dans les collèges américains, nu est devenu... Nu et les nazis barbiers, ils sont devenus des modernes classiques. Oui, ils sont en programme parmi la littérature de l'Holocauste et aussi dans les classes allemandes en Amérique.
Et Gary Jeanrat, alors par la suite, vous vous êtes intéressé à l'Arménie. Pour quelle raison est-ce que le dernier livre de vous, qui est paru en France et qui s'appelle « Le conte de la pensée dernière », raconte finalement l'histoire d'une ancienne tradition arménienne qui prétend que la dernière pensée du mourant prend son envol, voyage à travers le temps et qu'elle permet de remonter à toute l'histoire de l'Arménie et oui. De restituer toute l'histoire de l'Arménie qui est en même temps synthétisée dans l'histoire d'un héros qui est un Arménien qui vit dans un petit village arménien, qui rencontre un conteur. Et pourquoi est-ce que vous vous êtes tout d'un coup investi dans cette tradition arménienne? Parce que les Arméniens ont été victimes du génocide turc?
Oui, aussi parce que, vous savez, il y avait des milliers de livres sur les Juifs, sur l'Holocauste juif, mais il n'y avait rien sur les Arméniens. On me demande souvent pourquoi j'ai écrit ce livre. C'est La raison la plus importante, c'était parce que on a oublié les Arméniens. Les Arméniens étaient massacrés pendant la Première Guerre mondiale. Et cet Holocauste est tout à fait oublié. Et c'est pour ça que j'écris ce livre, pour faire revivre cet événement. Et c'est pas tous. Aujourd'hui, l'Arménie est en train de mourir une deuxième fois. Parce que ce petit pays est bloqué par les nations autour. Ils n'ont rien à manger. Ils n'ont pas de la lumière. Et ils meurent. Mais pour aider l'Arménie, il faut que les nations sachent quelque chose sur ce pays. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Parce que je crois que quand j'ai réveillé l'intérêt pour l'Arménie, on peut aider l'Arménie aujourd'hui.
Il faut ajouter que votre héros, disposant d'un passeport suisse, votre héros arménien, vient au secours d'un juif qui est enfermé dans un ghetto. Et que, à vos yeux, dans ce roman, on comprend qu'il y a une solidarité des victimes, voilà. Et que votre héros arménien est solidaire des juifs, enfermés dans un ghetto.
Oui, c'est pour ça, je crois que les juifs devaient être solidaires avec les Arméniens. Et pas seulement les juifs, tous les peuples aussi, parce que on ne peut pas les laisser mourir une deuxième fois.
Alors, ce qui est frappant dans ce roman, c'est que votre héros, finalement, vous l'imaginez comme assassin de François Ferdinand.
Ouais.
C'est-à-dire, vous imaginez que Gavrila Princip, le véritable assassin, ouais, aurait raté sa cible, et qu'en conséquence, cet Autrichien, ce duc autrichien, aurait donc été finalement assassiné par un Arménien, ce qui met les Arméniens au cœur de l'histoire européenne.
Ouais. Oui, mais c'était une accusation qui a été imaginée par un Turc pour accuser les Arméniens. Que c'est possible, la possibilité que n'importe qui peut être le meurtrier, même un Arménien.
Je comprends que vous compariez les deux génocides, mais je trouve que quand on lit le livre, on se rend compte d'abord que vous le menez presque comme un conteur, un peu comme un conte,
ouais, ouais.
Et il y a toute cette atmosphère avec d'ailleurs un conteur Méda,
ouais,
qui est le guide qui accompagne le lecteur, et donc une atmosphère très différente du nazi ou du barbier, et du barbier, ouais, une atmosphère très différente de tout ce qu'est la culture allemande de l'Europe centrale.
Ouais.
Quand vous comparez les deux destins du peuple arménien et du peuple juif, est-ce que vous ne croyez pas que vous risquez de banaliser chacune des deux histoires, de banaliser chacun des deux destins?
Non,
deux peuples.
Non, je ne crois pas que je banalise. Je crois que c'est une façon littéraire de montrer les choses dans une façon différente. Par exemple, le Holocauste arménien était même plus cruel que le Holocauste des Juifs, parce que les Turcs n'ont pas eu les moyens techniques comme les nazis. Les Turcs ont massacré les Arméniens à la manière d'un boucher. Et je me suis dit, je ne peux pas décrire quelque chose comme ça dans une façon réaliste. C'est plutôt dans un conte. Je voulais qu'on puisse le lire. Et dans un conte, c'est facile à lire. Dans une description réalistique, on ne peut pas le lire. C'est pour ça.
Edgar Eisenrath, dans ce livre, bien sûr, vous montrez le Kaiser comme l'allié des,
oui,
Ottomans dans le massacre des Arméniens. Mais en même temps, vous ne rendez pas compte de ce que la communauté internationale a tout appris du génocide arménien, non pas des Arméniens eux-mêmes, qui ont eu beaucoup de mal à s'exprimer, mais justement des rapports des ambassadeurs allemands et ensuite américains, qui ont tout dit de ce qui s'est passé pendant le génocide. Est-ce que vous ne croyez pas que ça montre qu'il y avait des possibilités de dire la vérité du côté de ceux qui semblaient être les auxiliaires même du génocide ?
Les Allemands savaient tous pendant le massacre, et les Autrichiens aussi. Et j'ai trouvé dans les archives allemands et autrichiens une centaine de documents qui affirmaient le massacre et tout ce qui se passait là-bas. Mais dans ce temps-là, les Allemands a donné l'ordre à leurs journaux et leurs institutions de silence, parce qu'ils étaient des alliés des Turcs. Mais les Allemands étaient aussi responsables, et les Autrichiens, parce qu'ils avaient même... parce que le militaire, l'armée turque, était formée par les Allemands. Les Allemands ont été les officiers là-bas, en Turquie. Ils ont vu tous, et même participé. Alors, c'est aussi dans mon livre que je montre que les Allemands étaient aussi coupables de ce crime. et les Autrichiens.
Edgar Eisenrath, vous avez en 1992 écrit un autre livre qui est entièrement consacré à une petite ville juive de Galicie, en Bucovine, dont vous racontez l'histoire de 1774 à 1942. Ça s'appelle « Le retour » de Jessel Wasserman. Peut-être on va lire un jour ce livre en français. Ça signifie que l'histoire en Europe centrale de cette petite ville vous tient suffisamment à cœur pour que vous pensiez que, à travers cette histoire, vous puissiez nous raconter finalement l'histoire des Juifs d'Europe centrale.
Oui. Alors, vous savez, ce nouvel livre de moi, c'est une histoire pas seulement de l'année 14 jusqu'à 42, mais de l'année 1774 jusqu'à 1942. Toute l'histoire des Juifs de l'Europe centrale.
Dans ce village, pour vous, ce qui vous intéresse, c'est l'histoire de la communauté juive ?
Oui, c'est l'histoire de la communauté juive sous la domination de l'Autriche. Non, pas seulement. Russe, polonais et l'Autriche.
Edgar Eisenrath, lorsque aujourd'hui vous vous exprimez, on constate que vous êtes mu toujours par cette volonté de vous battre contre la xénophobie, contre le racisme et aussi contre l'antisémitisme. Et vous avez été à l'initiative d'une pétition nouvelle qui s'appelle « Une nuit en Allemagne » et qui est une action de 50 écrivains allemands contre la xénophobie, le racisme et l'antisémitisme. Pourquoi cette action ?
Oui, c'est parce que on peut observer aujourd'hui un nouvel racisme en Allemagne. C'est pas contre les Juifs, mais c'est contre les demandeurs d'asile. C'est très dangereux. Je trouve nécessaire qu'on fasse quelque chose. Alors, les écrivains allemands et les intellectuels se sont réunis pour montrer aux Allemands, au même, à tout le monde, que les intellectuels sont contre le racisme. Et c'est pour ça que nous avons fait des lectures dans des maisons d'asile.
Des maisons qui reçoivent donc des demandeurs d'asile.
Oui, dans les foyers d'asile. Ouais. C'est pas pour les demandeurs d'asile qu'on fait ça, parce qu'ils ne comprennent pas l'allemand. On a fait ça pour que les journaux
rendent compte de votre solidarité avec eux.
Ouais.
Alors avec vous, il y a de grands intellectuels, puisqu'il y a Rainer Kunze, il y a Jürgen Fuchs, il y a Sarah Kirsch, Siegfried Lenz, il y a donc Hans-Christoph Bürch, il y a donc une série de grands intellectuels, il y a même Peter Schneider, l'auteur du Sauteur de Mur, qui donc, comme Monica Marone aussi, écrivain ex-Est, des écrivains de l'Est, des écrivains de l'Ouest, qui ensemble se rendent dans les foyers, lisent les textes. Est-ce que vous lisez des textes nouveaux de vous, ou est-ce que vous lisez des textes qui sont déjà parus, comme par exemple « Le barbier et le nazi » ?
Oui, c'est pas des textes nouveaux, ce sont des textes, des livres qui sont connus.
Et que vous lisez donc en public ?
Oui.
Donc devant des Allemands qui viennent dans les foyers, à côté des demandeurs d'asile, pour vous écouter ?
Oui. Oui, les journalistes viennent, les gens de télévision, des radios, c'est une grande publicité pour les demandeurs d'asile et contre le racisme.
Est-ce que vous avez l'impression que l'Allemagne est de nouveau votre pays ?
Non, pas vraiment, parce que l'Allemagne a beaucoup de visages, vous savez. Et j'espère que les racistes ne gagnent pas les élections. Mais le problème, c'est que les sentiments fondamentaux des Allemands sont racistes, vraiment.
C'était La mémoire du siècle d'Edgar Eisenrath, une émission d'Antoine Spire, réalisée par Isabelle Mézil, mixage Jean Prisot.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 1er septembre 1994. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.